et bienvenue sur la version mini de Qu'est-ce que tu ? Dans ces courts épisodes, vous retrouverez un des jeux de l'épisode enregistré. Si cet extrait vous a plu et que vous avez envie de vous immerger dans le quotidien de l'invité, foncez écouter la version longue. Allez, zoubi !
Tout à l'heure, quand tu m'as parlé de ta rencontre avec le verre, ça se sentait du coup qu'il y avait de la passion pour ton métier. Qu'est-ce qui la caractérise exactement, cette passion? Est-ce que tu as cet amour pour la matière que du coup j'ai compris? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent l'alimenter?
Oui, je pense que, en fait, avant de rencontrer le soufflage de verre, mais c'est vraiment ça, en fait, je considérais le verre uniquement pour ses qualités, disons, esthétiques. Et donc, c'était une matière parmi d'autres. En plus, dans mon parcours de designer, j'ai fait notamment l'école Boulle, donc qui a une, vocation pour, de former beaucoup de gens, des professionnels du travail du bois. Donc j'avais davantage cette culture-là. Et puis voilà, j'avais pas du tout vraiment ma considération, même esthétique du verre, a été décuplée lorsque j'ai découvert le geste qui sous-tendait sa mise en forme. Donc ouais, pour moi c'est complètement lié au fait que je pratique ce métier.
Est-ce que tu dirais que le souffleur de verre, dans l'exercice de sa profession et puis dans la place qu'il occupe dans la société, apporte quelque chose à l'économie globale ou même à la communauté?
En fait, ça, je pense que je peux élargir au métier d'art. Alors, je me trouve très chanceuse de faire partie d'un espèce d'élan générationnel et d'engouement pour les métiers d'art aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé mes études, même dans le design, ce n'était pas forcément le cas. Il y avait encore un côté assez hiérarchique entre, disons, les concepteurs et les fabricants, ce que je trouvais très artificiel, mais bon, c'est un peu à l'épreuve encore aujourd'hui, mais de moins en moins. Je trouve qu'il y a une porosité des disciplines qui est à l'œuvre aujourd'hui, qui est super à vivre et à observer. Mais je pense que oui, en fait, ce que cette approche de la production d'objets apporte au monde, c'est aussi de se dire qu'on s'ancre dans un temps qui est beaucoup plus long. En fait, c'est pas les mêmes coûts de production, de mise en œuvre, de vente, etc. Mais aussi, en fait, c'est pas du tout la même âme d'objet. C'est-à-dire que, aussi parce que j'ai cette chance d'évoluer dans ce microcosme, mais du coup, moi, dans les objets qui m'entourent, même, je ne parle pas les objets de table, les bols dans lesquels je bois le matin, etc., en fait, j'en ai quatre, mais je les adore. Je sais le travail qu'il y a derrière, et ce n'est pas juste une appétence technique. Enfin, en fait, j'aime les observer. Bon, il y a aussi le fait que si il casse, je suis très très triste. Mais enfin voilà, je suis pas du tout consumériste. J'ai pas cette approche-là des objets qui m'environnent. Et ça, je pense que ce que les métiers d'art peuvent apporter aujourd'hui au monde, c'est ça. C'est de se dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir un vaisselier rempli qu'on n'utilise jamais. Mais par contre, le choix spécifique de chaque objet qui nous entoure et en fait de ce qu'ils vont dégager, de l'apport véritable qu'ils vont donner dans nos vies, mais de joie vraiment, enfin, de bonheur et de joie, ça je pense que c'est hyper intéressant, enfin primordial de se reconcentrer là-dessus, aussi parce que je pense qu'on peut pas continuer dans la quête, on va dire, de
perpétuel plus.
Exactement, exactement. Ouais. C'est pas possible. Il y a des choses sur lesquelles je pense l'industrie est indéboulonnable parce qu'en fait il y a des besoins. Sincèrement, je pense que sur beaucoup de choses de la production d'objets, notamment pour l'habitat, on va dire on dit fast fashion. Alors je sais pas la fast déco.
Ouais.
Non, en fait, non.
Pourtant, il y en a qui sont positionnés sur ce créneau et ça marche très bien. Hein. C'est ça le drame. Mais on en parlait avec Florent, qui est ébéniste, et dans l'épisode 2, sur cette notion de la temporalité de ce que tu achètes. Et que c'est vrai que quand tu prends conscience du travail manuel qu'il y a derrière, et ça, c'est toute une démarche client à faire. Hein. C'est-à-dire que toi, en tant que client, quand tu vas vouloir acquérir un objet, déjà, peut-être prendre le temps aussi de se dire qu'est-ce que je veux, comment je le veux, où je le veux, pendant combien de temps je le veux.
Ouais.
Et puis, penser la matière, penser, enfin, d'avoir toute cette démarche créative. Et oui. Après, d'être épaulé par un artiste, un créateur qui vient, lui, formuler cette, cette idée. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça. On rentre chez Maison du Monde, on voit un nouveau bol, on se dit « Ah, pas mal !» Et je le prends, ouais. Et puis voilà. Et c'est changer complètement la, la démarche. Après, il y a une dimension coût qui est aujourd'hui, et pour beaucoup, inaccessible.
Ouais, je suis entièrement d'accord. Alors, j'aime, bon, t'as cité une marque que je ne me serais pas permise de citer, mais alors, il y a deux réalités. Si tu disais qu'il y a la... Moi, je suis un peu intéressable sur ce sujet. En plus, j'enseigne spécifiquement à des jeunes designers ces notions-là, donc vraiment,
ouais.
c'est presque militant, mais il y a déjà le coût du savoir-faire, mais il y a le coût de la matière première. Enfin, je veux dire, le bois... qu'on va acheter, qui va composer un mobilier aujourd'hui, il vient potentiellement d'arbres qu'on a plantés il y a 200 ans. Juste se remettre ça dans les... en tête, en fait, je veux dire, on ne peut pas se dire qu'on l'achète pour 2 ans, quoi. C'est quand même faux. Et pour revenir au travail du verre, et ben, notamment dans ces enseignes de déco à bas coût. En fait, la réalité, c'est que les objets, moi je vais parler du verre, hein, qui sont vendus là-bas, parfois à 5 balles, en fait, ils sont faits par des gens qui ont exactement le même métier que moi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits industriellement, ils sont faits industriellement par des gens comme moi. Donc, je vous passe le détail de dans quelles conditions et où. Mais si ça coûte 5 euros et que moi, pour l'équivalent, si vous me l'achetez directement, ça va coûter minimum 20 euros, alors que le truc a déjà traversé la planète et est passé par au moins 2 intermédiaires, en fait, comment c'est possible, en fait ? Il y a la question du coût, mais en fait, moi, je me demande comment c'est possible aujourd'hui, ne serait-ce que socialement, de se dire qu'il y a que des objets peuvent sortir dans cette réalité-là. J'arrive même pas à comprendre comment on fait tourner le four en Inde qui va permettre de sortir ces objets-là. J'arrive même pas à comprendre d'où vient le coût de l'énergie, quoi.
Non, c'est clair, parce qu'en plus, on peut se dire que c'est de la quantité de bien vendu qui va venir permettre d'amortir toute cette logistique. Mais en effet, comme tu dis, socialement, il y a forcément un maillon de la chaîne qui trinque.
Oui, et en plus de ça, c'est pas, en général, c'est pas des volumes si fous que... Enfin, alors, le verre est industrialisable, disons, dans les très grandes lignes, à partir de 10 000 exemplaires. 10 000 exemplaires pour du verre industriel, c'est-à-dire pour faire marcher une usine, voilà, où tout va être automatique, notamment pour faire des bouteilles, des pots, etc. 10 000 pièces, c'est vraiment une toute petite série. Donc, en fait... en dessous, à quelques milliers, etc., c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens. Et donc, en fait, c'est pas forcément des volumes très importants. Et après, il y a une limite technique à ce que l'automatisation peut faire. Donc, parfois, il y a des choses qui sont semi-automatisées, etc. Mais, par exemple, tout ce qui est en verre de couleur, qui sont pas la couleur, on va dire... du verre d'emballage, et ben tout ça, en fait, ça nécessite un four spécifique. Donc, en fait, il y a des gens devant ce four. Voilà. Et je pense que ça, on en a beaucoup plus conscience.
Vraiment pas conscience.
Non, mais quand on parle de...
sans des être objets. Alerte.
Ouais, ouais, c'est ça. On le sait un peu pour les vêtements. Enfin, il y a des, voilà, il y a des choses qu'on commence à éveiller les consciences. En fait, c'est aussi le cas pour les objets, quoi. C'est pas industriel, et je mets des gros guillemets, là, je mime des guillemets. C'est pas industriel, en fait.
Sur un plan plutôt personnel, quand tu dis que tu es souffleuse de verre, toi, est-ce que tu perçois un regard particulier de la part des gens ?
Ah ouais.
Ah ouais ?
Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est... J'ai l'impression d'être un Pokémon rare, un peu.
Ah.
Non, mais... C'est-à-dire que c'est...
Ouais, je vois grave.
Alors, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que c'est assez marrant parce qu'effectivement, on est en soirée et quelqu'un demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Bah, je suis souffleuse de verre. T'es genre, ah, voilà. Et puis, juste après, il y a l'anecdote de « J'ai été à Murano ». Et puis, en fait, moi, j'adore parler de mon métier et tout. Donc, en fait, c'est trop cool. Hein, il y a ce côté-là. Après, il y a des fois où, en fait, j'ai pas trop envie ni de me faire remarquer, ni de faire de vagues. Enfin, je sais pas, où c'est pas des moments où, genre, la sociabilisation va de soi, etc. Et en fait, à ce moment-là, je dis que je suis designer parce que j'ai pas envie. Sinon, c'est sujet à... Ça fait un peu bonjour, je suis cracheuse de feu, quoi. Un peu.
Oui, mais parce que après, tu pourrais aussi avoir ce truc de... C'est dur de communiquer avec une personne sur ton métier parce qu'il a pas le... par exemple, tu vois, je te donne un exemple tout simple, je prends un exemple. Moi, je suis en train de me reconvertir en charpentière.
Ok.
Et alors, quand je dis ça, généralement, la conversation va pas bien loin parce que les gens sont là en mode « Waouh !» Mais du coup, je sais pas trop de quoi te dire, tu vois. J'en sais pas trop. Tu vois, c'est comme si ils osaient même pas poser des questions.
Ouais.
Ou, tu vois, c'était tellement... Ouais. T'es tellement un Pokémon rare que du coup...
Alors moi pas trop, et je vais même faire un peu le point. Alors donc j'ai des frères et sœurs, enfin je viens d'une famille où vraiment il n'y a pas de territoire dans les savoir-faire, enfin vraiment je suis un peu l'original de la bande, mais du coup j'ai des frères et sœurs qui ont des professions on va dire très normées. Et ben ma sœur est née, et parfois, je lui demande, mais en fait, concrètement, c'est quoi son métier ? Donc, elle est ingénieure agronome. Voilà, donc elle a un poste dans la RSE, quoi.
Je te demanderai pas de m'expliquer son métier, du coup, t'inquiète.
Eh ben non, mais en vrai, je veux dire, bonjour, je suis souffleuse de verre. En fait, ça appelle au moins un imaginaire, si ce n'est des images.
Oui,
en fait, ça appelle quelque chose de très concret. Donc, en fait, on peut avoir une conversation sur la base de, OK, il y a du verre, c'est un matériau, tu le souffles, OK. Donc déjà, il y a au moins 10 minutes d'occuper. Bonjour, je suis chef de projet marketing. Mais tu fais quoi ? Enfin, pardon, mais vraiment, tu fais quoi ?
Ouais, mais du coup, c'est peut-être ça qui génère la conversation aussi. C'est, bon, ouais, vas-y, poursuis, tu vois, parce que là, j'ai besoin de plus d'infos.
Moi, j'ai beaucoup plus de mal avec toutes ces professions du tertiaire qui ont à peu près toutes le même intitulé et qui veulent tout et rien dire. Même designer, aujourd'hui, designer, ça peut vouloir dire designer industriel de produits, ça peut vouloir dire concepteur de services, ça peut vouloir dire UX, UI, c'est-à-dire conception d'interface d'application et d'expérience utilisateur, enfin, voilà, donc je trouve que c'est beaucoup plus flou
que souffleur de verre.
C'est pragmatique, quoi. Voilà, je souffle du verre en fait.
Et sur le plan plutôt perso philosophique, est-ce que tu as la sensation que c'est un métier dans lequel tu t'épanouis particulièrement sur certains sujets ? Ça t'apporte quelque chose en particulier ?
Ouais, je pense que... Alors, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que c'est un savoir-faire qui est assez énergivore, enfin qui est même très énergivore. Hein. Donc, en fait, ça, c'est un truc qu'on a à l'esprit un peu tout le temps. C'est-à-dire que, en fait, dès lors qu'on fabrique un objet, ne serait-ce que pour nos propres coûts, mais aussi parce que, en fait, on voit le four incandescent, en fait, je pense que ça situe beaucoup la valeur des choses. Bon, c'est aussi dû à ma formation et mon système de valeurs de me poser la question de comment sont faites les choses. Mais ça, en tout cas, c'est quelque chose qui est toujours présent à mon esprit. Je pense que depuis que la transmission, comme on aime à dire, a fait irruption dans nos vies d'artisans aussi, bah, ça a pris une toute autre tournure. C'est vrai qu'à l'atelier, généralement, le tuteur de stage ou le maître d'apprentissage, c'est plus Laurent. Déjà parce qu'il est beaucoup plus à l'aise, ne serait-ce que pour parler en faisant. Donc, en fait, il y a une médiation, je trouve, du savoir-faire qui est beaucoup plus efficace. Enfin, je sais pas, il est très à l'aise là-dedans. Donc, ça, c'est très
chouette. C'est un savoir-faire, hein, la pédagogie.
Ouais.
Hein,
oui, complètement. Ouais, ouais. Et moi, j'enseigne depuis 4 ans maintenant. Alors, pas le soufflage de verre, hein, j'enseigne vraiment les technologies des matériaux dans une école de design, puis je fais du suivi de projet en design. Mais depuis que je fais ça, il y a aussi le fait que ça m'a complètement ouvert les mirettes sur... je pense que depuis la création de mon entreprise, j'ai été un peu dans une espèce de tunnel où forcément, bah, il faut avancer. Et là, en fait, d'un coup, en plus, c'était après le Covid, etc., être en dialogue avec une autre génération, avec d'autres esprits créatifs, en fait, ça amène quelque chose qui peut être bouleversant et qui même est, de façon très égoïste, extrêmement stimulant pour sa propre pratique, en fait. Parce qu'on ne tourne plus en rond autour de nous-mêmes, quoi.
Oui, oui, c'est une vraie source d'inspiration là-dessus. Et ça te permet d'être à la pêche.
En plus, voilà. Je me dis que je vais quand même finir une boomeuse comme tout le monde, mais peut-être oui, vieillir un tout petit peu moins vite.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, je crois que ça m'aide à être visible si vous notez le podcast 5 sur 5. Après, j'ai franchement pas creusé l'algo. Mais je me dis que si tout le monde met 5 sur 5, ça va juste me faire kiffer, et c'est le principal. Si vous voulez en savoir plus et m'aider à préparer mes épisodes, rendez-vous sur le compte Instagram de Questuf, questuf.podcast. Allez, zoubis !